Pourquoi nous venons à Jésus-Christ ? Matthieu 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Jean 6, versets 48 à 51. « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Jean 6, verset 54. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et toujours dans Jean 6, prenons versets 57 et 58. « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amis, frères et sœurs en Christ, après avoir écouté, lu ces passages, pourquoi venons-nous à Jésus-Christ ? Quelle réponse allons-nous donner à cette question ? Les réponses données par la plupart, d'après ce que nous entendons, tournent toujours, et oui, sur les mêmes réponses. Pour être prospère matériellement ou financièrement, pour avoir un mari, une femme et des enfants, pour ne plus être malade physiquement, pour réussir tout sur la terre, pour ne plus mourir. Si nous entrons en profondeur sur le message de la venue de Jésus-Christ sur la terre, les cinq premières réponses que nous venons d'entendre sont souvent enseignées dans les églises de toutes les dénominations chrétiennes. Mais rarement nous avons entendu en réponse à cette même question, donc pourquoi venons-nous à Jésus-Christ ? Quelqu'un dire, quelqu'un répondre. Pour être héritier du royaume de Dieu, c'est-à-dire héritier de la vie éternelle après cette vie terrestre. C'est tout simplement que les chefs des églises passent cela sous silence. Et pourtant, c'est cette réponse qui est la vraie raison de la venue du Christ Jésus sur la terre des hommes mortels. Ce n'est pas pour venir sauver le corps charnel que le Christ Jésus est venu, mais pour sauver l'âme de l'homme. Ézéchiel 18, verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Pour bien lire ce passage, voici la traduction spirituelle. Car je ne désire pas la mort de l'âme de l'homme qui meurt, dit le Seigneur. L'âme doit se convertir afin qu'elle vive et reçoive un corps incorruptible et éternel. Le corps charnel, les matériels, les finances, la femme, le mari, les enfants, toutes choses, tout cela disparaîtra. Ceci dit, Jésus-Christ, lui-même qui est le Fils de Dieu créateur, de toutes choses, n'avait pas toutes ces choses. Il n'avait ni femme, ni enfant, ni richesse matérielle, ni richesse financière, ni maison. Matthieu 8, versets 19 et 20. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Toutes ces choses n'étaient pas sa priorité. Sa priorité, c'est d'hériter le royaume des cieux de son Père Dieu Saint et éternel. D'ailleurs, c'est ce qui fut à sa résurrection. Il nous a donné cet exemple de chercher d'abord le royaume des cieux de son Père. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est cela qui est important dans les yeux de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ est venu nous faire connaître, ce que son Père attendait de ses enfants adoptifs, que sont les croyants chrétiens. Mais aujourd'hui, les hommes viennent à Jésus-Christ, non pour chercher à gagner le royaume des cieux, mais pour chercher les choses du monde, des choses qui ne nous appartiennent pas, car elles ne sont que passagères. Même ce corps visible ici, le corps de la chair, n'est que provisoire. Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Jamais dans un passage des Saintes Écritures, il est dit que Jésus-Christ est venu pour nous rendre riches matériellement ou financièrement. Il n'est pas venu pour que nous ayons des enfants, des maris, des femmes. Les bienfaits et les faveurs du monde que Dieu nous donne, cela ne dépend pas de nous, mais de Dieu selon sa grâce. Et il les donne au moment favorable, selon son temps, non par l'exigence de l'homme. Revoyons Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Deutéronome 2, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Deutéronome 28, verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Persévérer, se mettre à l'œuvre. Ne pas être un auditeur oublieux, c'est-à-dire la quête de la vie éternelle, en marchant dans la sainteté et de la perfection. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 1 Pierre 1, verset 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints car je suis saint. » en pratiquant la vraie religion. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de la volonté du croyant chrétien, mais de la volonté de Dieu, surtout de son temps pour bénir. Ce n'est pas le serviteur qui bénit, le serviteur surtout l'enseignant. L'enseignant lui montre le chemin et c'est au croyant chrétien d'emprunter le chemin. Nous constatons dans la majorité des églises que certains serviteurs prennent la place de Dieu. Ils se prennent pour des producteurs de la bénédiction. Ils soumettent des croyants chrétiens à des rites et traditions périmées, les ordonnances de la loi lévitique, dite la loi de Moïse. Conclusion. Les croyants chrétiens passent de serviteur en serviteur à la recherche des serviteurs qui bénissent. Erreur. C'est Dieu qui bénit. Et Dieu bénit qui il veut. Dieu bénit au temps favorable, c'est-à-dire en son temps. Acte 1, verset 7. Il leur répondit. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. 2 Corinthiens 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Daniel 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Malheureusement, la majorité veut imposer leur temps à Dieu, alors qu'ils savent très bien que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Résultat, ils quittent la voie de Dieu et vont consulter d'autres dieux, petite idée, pour recevoir ce qu'ils veulent en empruntant le raccourci. Luc 4, versets 5 à 7. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Alors, ils se disent croyants chrétiens. Ils se disent porter le nom de Jésus-Christ par le baptême. Ils fréquentent des assemblées dites corps du Christ. Chaque dimanche, ils sont à l'église. Ils chantent, ils dansent, selon eux, pour le Seigneur. Et pourtant, dans la nuit, ils vont consulter d'autres dieux pour recevoir les choses du monde. Les bénédictions matérielles, financières, des maris, des femmes et des enfants. Alors, pour tromper les autres, ils viennent faire des témoignages comme quoi « Dieu m'a béni » en disant « À cause de ma dîme et mon offrande, Dieu m'a béni. » Amis, Dieu n'est pas aveugle. Dieu connaît tout, même ce qui est caché dans le cœur d'un homme. L'Esprit de Dieu sonde tout. Les bénédictions obtenues par ce jeu de passe-passe ne sont que des bénédictions éphémères, car elles ne durent pas et procurent beaucoup de chagrin. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amis en Christ, demeurez dans la quête de la vie éternelle et attendez patiemment le temps de Dieu et bénissez le Seigneur en tout temps. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 19. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Rendez grâce à Dieu en tout temps. Ne vous fiez pas aux dîmes et offrandes pour être bénis, pour les faveurs et bienfaits. Dieu donne selon sa volonté. Quant au royaume des cieux, c'est le croyant qui doit l'obtenir par son obéissance à la parole de Dieu. Mais la pluie, le soleil, l'eau, Dieu les donne à tous, car tous sont ses créatures. En tant que créature, Dieu assume sa responsabilité. C'est par le travail de nos mains que nous pouvons manger le pain. 2 Thessaloniciens 3, versets 8 à 15. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail, dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons, cependant, qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Mettez-vous en marche pour la quête de la vie éternelle. Exode 14, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi s'écrie, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent ?» Frères, vous êtes invités à la méditation de cet enseignement. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Voilà, frères et sœurs, pour cet enseignement, que le Seigneur Jésus-Christ vous éclaire. Thank you.